trouver Denise qui était prête à être utilisée. Apprends-nous, Seigneur, à être des instruments de Dieu. Apprends-nous chaque jour à nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Et ça, Seigneur, en fait, c'est la seule chose sensée à faire. Tu as tout fait pour nous. La seule chose qui mérite notre effort, c'est de tout faire pour toi. Dans les moyens. Une attitude de notre cœur. Seigneur, nous savons que pour apprendre à vivre, nous avons ta parole qui est la vérité, qui nous enseigne, la vérité, qui nous exhorte à les vivre, à les mettre en pratique. Seigneur, que ce matin, il y ait toute puissance dans nos cœurs pour accomplir son effet. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Nous abordons aujourd'hui une nouvelle partie de la lettre de Paul aux Romains. C'est la deuxième grande partie. Et les chapitres 12 à 15 pourraient s'appeler « Devoir les justifier ». Autrement dit, nos devoirs envers Dieu et les hommes, pour nous qui avons reçu les bienfaits de la bonne nouvelle de son évangile. Et ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de l'enseignement de Paul. Il commence toujours ses lettres, ses textes, avec une partie très forte où il nous annonce des vérités, de la doctrine. Puis une fois qu'il a enseigné ce que nous devons croire, il nous exhorte à mettre en pratique ces choses-là. Et la vie chrétienne, la vie pratique, elle dépend de ces grandes doctrines chrétiennes. On ne peut pas vivre une vie chrétienne juste si on ne connaît pas la parole de Dieu. Mais il y a un danger tout aussi important qui nous guette, c'est de connaître ces vérités sans les mettre en pratique. Il était dit dans Jean 13, 17, celui qui est heureux, ce n'est pas celui qui connaît, mais celui qui connaissant la vérité la met en pratique. Trop souvent, dans nos églises, dans notre vie personnelle de chrétien, on a l'impression, parce que on sait ce qu'il faut faire, on a souvent l'intention de le faire, mais même si on ne fait pas, on se sent juste, on se sent digne de l'amour, on pense que l'on vit la vie chrétienne, alors qu'en fait, on passe complètement à côté de la plaque. Nos croyances vont déterminer notre conduite. La doctrine doit déterminer la pratique. Mais l'un sans l'autre, c'est une marche bancale. On va pas aller jusqu'au bout. Vous souvenez, on va rappeler brièvement les chapitres 1 et 2. Paul nous a montré à quel
mort.
Les chapitres 3 à 5, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, à savoir le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, à notre place, et que nous sommes acceptés par Dieu sur la seule base de notre foi en Jésus-Christ et ce qu'il a fait à la croix. Ça, c'est cette fameuse justification par la foi. Les chapitres 6 à 8, nous avons vu que Dieu n'en reste pas là, il nous déclare acceptables, il nous accepte, mais il commence à nous rendre effectivement acceptables en nous purifiant, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Il nous rend de plus en plus semblables à Jésus-Christ, il nous met à part pour son service. Depuis les chapitres 9 à 11, nous avons vu qu'en fait, ce qui semblait être une parenthèse sur le sujet du devenir d'Israël, c'était pour nous montrer que Dieu ne retirait jamais son amour à ceux qui se confiaient en lui. Le chapitre 12, on pourrait l'appeler « Comment vivre avec Dieu et avec les autres ». Les versets 1 et 2 parlent de notre relation avec Dieu. Les versets 3 à 8 vont parler de notre relation avec les autres chrétiens. Nous savons tous que ce n'est pas si facile que ça. Et puis les versets 9 à 21 vont parler de notre relation avec les autres, les non-chrétiens. Chapitre 13 nous montrera comment respecter le gouvernement même, comment vivre avec un gouvernement, et il nous enseignera davantage. Mais ce matin, nous allons nous concentrer sur ces deux premiers versets du chapitre 12. Romains 12, versets 1 et 2. Je lis dans la version à la colombe, page 181 à la fin de la Bible, dans le Nouveau Testament. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par l'âme. Ça, ce sont deux versets que je vous encourage à apprendre par cœur, parce qu'ils font le lien entre les vérités que la Bible nous annonce et la vie que nous devons mener. J'aimerais les lire dans d'autres versions, par exemple la version du Semeur dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le renouvellement de votre pensée. Pouvoir tenter de Dieu ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » La version en français fondamental, qui est une version récente avec un vocabulaire très restreint, pour qu'on puisse vraiment partager ces bonnes nouvelles avec ceux qui même ne parlent pas bien le français, ceux qui n'ont pas fait d'études, qui ne sont pas allés à l'école. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu changer complètement votre intelligence, ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Puis pour finir, une autre version qui s'appelle la parole vivante, qui a tendance à expliquer un peu, expliciter certains termes. Je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. donner à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, et qui vous conduit à une réelle maturité. Une version appelée la parole vivante. Voilà, on pourrait continuer, et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit ces différentes versions, on voit comment chacune d'entre elles essaye d'expliciter un peu le texte grec, le texte original, qui des fois, lorsqu'on le lit dans une seule version, peut ne pas, une certaine traduction peut ne pas donner toute la richesse du texte. Et là, on va rester avec le texte de la colombe, mais c'est une chose que je vous invite à faire. Toujours bon, sans en avoir autant que de la carte, 12 versions, et encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est d'avoir peut-être plusieurs versions de la Bible, et notamment cette Bible en français fondamental ou en français courant ou la parole vivante qui explicite un peu le texte grec de façon à ce que vous sentiez un peu les nuances. Ça, c'est une bonne chose à faire si vous ne le faites pas. Si vous avez la chance de parler l'anglais aussi, vous pouvez étudier dans votre Bible en anglais et en français et ainsi pouvoir récolter toute la richesse et le sens réel des textes. Je vous exhorte. Exhorter, c'est en grec, c'est le même mot que le mot dont nous avons le mot paraclé. C'est appeler à côté, c'est s'efforcer par des discours persuasifs, chose. C'était aussi le mot qui était le mot de l'avocat qui venait auprès, qui était appelé auprès de quelqu'un pour l'aider, appelé dans le but de produire un effet. Et Paul, il vient à côté de nous et il nous dit, écoutez bien, je veux vous inviter à faire quelque chose en raison de quoi ? En raison du donc. Le donc qui se trouve ici, je vous exhorte donc, fait référence à tout ce qu'il vient de nous dire pendant les 11 premiers chapitres. Il nous dit frères, une version nous dit frères ou sœurs, bien entendu. C'est un frère comme on parle des hommes, pour parler des hommes des deux sexes. Ici, les frères, ce sont les frères et les sœurs en Christ de Paul. Il nous rappelle ce don, c'est les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime tellement. La compassion, c'est souffrir avec, c'est la sympathie. Dieu se passionne pour chacun de nous, pour chacun des hommes. Il aime tous les hommes, il est mort pour tous les hommes. Offrir vos corps. Offrir, c'est présenter, se mettre au service de quelqu'un. Comme le matin, lorsque vous arrivez au travail, lorsque Thierry arrive au CIV, il se met à la disposition, il se présente à l'éducation nationale, comme un sacrifice vivant. Ça, on va revenir. Vous allez au travail, vous allez à l'université, vous vous donnez corps entier, nos oreilles, nos pieds, nos mains. Mais le corps, c'est aussi le siège de toutes nos facultés. C'est aussi lui qui, lorsque nous sommes nés de nouveau, est porteur de notre esprit, par lequel nous pouvons avoir communication avec Dieu, qui est esprit et vérité. Comme un sacrifice vivant. Alors, aujourd'hui, la notion de sacrifice n'est plus quelque chose qui fasse recette. À un moment, j'ai pas vu une pub qui parlait de sacrifice. Sauf si c'est pour les prix. Les prix sont sacrifiés, les pauvres. Mon œil, c'est pour nous, pour en vendre davantage qu'ils font une petite réduction. Ils donnent toujours l'impression de « Oh, je meurs, mais venez chercher mes produits ». La notion de sacrifice était une notion bien, bien présente à l'époque. Il y avait les sacrifices qui étaient offerts au temple jusqu'en l'an 70. on faisait brûler entièrement l'Holocauste en signe de consécration totale. Et Dieu avait repris les Juifs dans le prophète Malachie en leur disant qu'il n'était pas question d'offrir des animaux de second choix. Il disait même qu'il volait le Seigneur. Il le trompait. Il disait, mais en quoi est-ce qu'on peut voler le Seigneur? Il a dit, lorsque vous ne lui donnez pas les meilleures bêtes que vous avez, vous ne feriez pas ça si c'était votre gouverneur qui vous demandait une bête. Parce qu'il serait là et vous dirait, non, pas celle-là. Mais vous n'hésitez pas avec Dieu à lui donner les restes. Le sacrifice, c'était ce qu'on avait de mieux. La plus belle bête. Il nous dit que contrairement au sacrifice, il faut que le sacrifice soit... On tranchait la gorge et on les faisait brûler. Là, il est question que le sacrifice soit vivant. Il ne faut pas une bête morte. Morta la vacca. C'est pour les hispanisants, là. Il ne s'agit pas de lui donner une carcasse un peu avariée. Lui dire, une fois que j'aurai pris la retraite, 75 ans, non. Alors là, je m'investirai à l'église, j'aurai un peu de temps, les enfants seront partis, alors je viendrai donner un coup de main avec les bulletins ou avec quoi que ce soit. Non, un sacrifice vivant, saint, spirituel. C'est mystique. Non, non, non. Saint, ça veut dire simplement consacré, séparé pour Dieu. Être mis à part pour lui. Et ça, ce sera agréable à Dieu. C'est quelque chose qu'il pourra recevoir sans faire semblant. C'est quelque chose qui va être digne de lui, agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, c'est le service d'adoration, c'est l'adoration, mais c'est aussi la notion de servir Dieu. C'est le mot duquel on a l'expression qui a donné naissance à l'expression liturgie. C'est un culte, un service, une adoration, et le mot qui suit raisonnable, c'est le mot en grec logique, logiki, qui veut dire qui vient de la parole, qui vient. Est-ce que vous êtes réalisé en fait que la logique, c'est ce qui tient compte de la parole? Alors c'est vrai que les Grecs, dans l'Antiquité, ils avaient cette vénération pour ce qu'ils appelaient le logos, la raison pure. Mais ce qui est logique, c'est ce qui tient compte justement de la raison. Certains traduisent ça par spirituel, spirituel ou raisonnable, parce que c'est selon la... Basiquement, dire simplement ce qui est sensé, ce qui n'est pas imbécile, si on mettait ça dans une forme négative. La seule chose logique à faire, si on n'est pas à moitié fou, c'est de s'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. En vertu de ce que Dieu a déjà fait, lui qui s'est livré complètement pour nous, la chose logique, c'est à nous de nous livrer complètement à lui. Ne vous conformez pas, verset 2, conformer, c'est rendre semblable à, former une chose comme une autre chose, mais souvent, conformer, c'est assumer une expression extérieure qui ne correspond pas, à l'intérieur. Donc on peut être un rebelle dans le cœur, mais on va se conformer à la discipline militaire parce qu'on a appris que ça valait mieux pour pouvoir avoir des permissions. Donc on se conforme sous une forme de pression. Et Paul dit que on ne doit pas se conformer au monde présent, ou à l'âge présent, à ce siècle. Et ce siècle, en fait, il existe à l'époque de Paul, il continue aujourd'hui. C'est la mentalité du monde qui rejette Dieu, le monde présent. Il y a un auteur qui dit ça très bien, ne vous laissez pas mouler, ne vous laissez pas conformer par le moule de notre époque. Et on voit combien il y a une pression qui est exercée sur nous par le monde qui nous entoure. Il y a la pensée correcte. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Et des fois c'est bien, d'autres fois c'est très mal. Parce que la vérité n'est pas exprimée. Et sous prétexte de discours politiques ou de discours idéologiques, on continue de croire à des bêtises. Parce que la vérité n'est pas annoncée. On dit par exemple qu'il suffit de faire payer les riches pour qu'on puisse tous prendre la retraite à 40 ans. C'est pas vrai. Si on fait des calculs, on s'aperçoit que même en prenant la richesse des plus grands, désolé, il y a un problème. Alors il ne s'agit pas de manifester en disant « mort aux riches, mort aux vaches ». Il faut être logique. Et ça, c'est la pensée unique. C'est la pensée « non, c'est les riches sont les victimes, sont plutôt les responsables ». Et avec ce raisonnement, on aboutit à des absurdités, à une société bloquée parce qu'on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas... Ça, c'est être conformé au moule. Et ça va dans tous les sens. Ne prenez pas ça comme une direction politique. Ça va aussi bien dans un sens que dans l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable d'avoir le courage de réfléchir devant les faits et de s'aimer les uns les autres pour raisonner ensemble. Ne laissez pas le monde vous presser dans son moule. Transformer. Mais au contraire, il faut être transformé. Et le mot qui est utilisé, là, c'est le mot de métamorphose. Devenir différent, changer de forme, de structure, au point d'être méconnaissable. Et c'est la forme grammaticale, c'est « soyez transformé dans votre nature intérieure, dans votre nature intime ». Et ça, nous avons des exemples dans la nature de métamorphose. On parle en biologie de la métamorphose des cloportes, non, des insectes. Ça, c'est le nom d'un film, je crois, hein, dans les années 70. On se date, là. Les animaux, comme les chenilles, par exemple, partent d'un... Une chenille, avant de devenir un papillon, va se métamorphoser, va d'abord se transformer en cocon. Et à la fin, le papillon, qui va gentiment s'envoler, après s'être débattu dans le cocon, ne va avoir rien de semblable à l'horrible chenille qui nous faisait exprimer des sentiments de dégoût, de répulsion. Maintenant, on va voir un joli papillon, belle couleur, qui volette sur les fleurs. Il s'est passé une transformation radicale. Comment est-ce qu'on est transformé ? Par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement, c'est pas de prendre les dernières nouveautés et de les ingurgiter. Non, le renouvellement, c'est un changement de caractère, de nature, encore une fois. Un pécheur qui devient un saint, ça, c'est du nouveau au sens du mot renouvellement dont il est question ici. Pas un nouveau dans le temps, mais nouveau quant au caractère. C'est l'idée que Paul est... qui était exprimé dans 2 Corinthiens 5, 17, lorsque Paul disait « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ce n'est pas que c'est la il est au goût du jour, c'est la dernière nouveauté. Non, il est radicalement différent. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un changement de caractère radical qui s'est produit. L'intelligence dont il est question ici, le renouvellement de l'intelligence, c'est l'intellect, c'est nos facultés de penser, de raisonner, c'est toute la raison dans son activité, dans sa qualité morale même. Et de cette façon, nous pouvons discerner, nous pouvons reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Et là, ça c'est une question qui est souvent posée, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Je viens de recevoir un email de Anne Graves qui se demande si peut-être le fait qu'elle n'ait pas reçu une réponse n'est pas un signe que Dieu veut qu'elle aille à l'école biblique l'an prochain et non qu'elle essaye de revenir en France. Et elle cherche, elle prie pour la volonté de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'il y en a qui cherchent la volonté de Dieu dans leur vie en ce moment? Les autres, c'est bien, ils savent déjà où ils sont là. Et souvent, on pense que la volonté de Dieu, c'est quelque chose de mystérieux, il faut faire brûler de l'encens, il faut se mettre à genoux, marcher à genoux, prier. Certes, il faut être dans une attitude de recueillement, de prière, de recherche. Mais Dieu ne veut pas que sa volonté soit quelque chose d'impossible à trouver. Il nous dit ici que si nous nous présentons à Dieu pour le servir, pour l'adorer en esprit et en vérité, si nous offrons à lui, si nous laissons notre esprit être transformé, notre intelligence être renouvelée et non pas conformée à ce qui nous entoure, alors nous pourrons connaître la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, elle se caractérise par ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait au sens de ce qui nous amène à la pleine maturité. Donc vous voyez que ces deux versets, c'est déjà tout un programme. On va passer quelques minutes à revoir un peu. Mais je voulais juste simplement vous montrer comment on prend un passage. Et chaque mot, nous pouvons réfléchir, nous pouvons méditer. Et je vous invite vous-même à faire cet exercice, à prendre ces deux versets par cœur. Et puis quand vous attendez en ligne à la banque, dans une file d'attente, à la sécurité sociale, à la préfecture... Là, on peut apprendre tout le chapitre, là, mais réfléchissez à ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut vous dire. Mais à la base, l'idée, c'est que, vu ce que Dieu a fait pour nous, le moins que l'on puisse faire, c'est de tout faire pour lui. Si on comprend bien la Bible, si on comprend bien l'histoire de Dieu, on s'aperçoit que bien trop souvent, ce qui nous préoccupe, c'est tout ce qui est pour être conformé aux valeurs du monde qui nous entoure et qui rejette Dieu. On y reviendra. J'aimerais simplement vous citer les paroles d'un grand missionnaire anglais. Il dit simplement, « Si Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'existe pas de sacrifice à lui offrir trop grand pour moi. » Si Dieu qui est infini a fait cette offre, ce sacrifice pour ma vie, est-ce que moi je peux lui dire non, je te donne juste un petit peu, je te donne juste une partie? Et notre motivation pour le servir, encore une fois, ça doit être la gratitude, l'amour devant son amour. Tout ce qu'il a fait pour moi, comment est-ce que je peux lui donner une petite contrepartie. Donc nous devons donner d'abord à Dieu notre corps. Et souvent, je l'ai déjà dit, le corps, ce n'est pas seulement notre corps physique. On a souvent tendance à dire « Mon corps, il n'est pas, il n'est pas très beau à offrir à Dieu. J'ai pris du poids récemment. Je fais de moins en moins d'exercices. Je commence à avoir des petites difformités qui se montrent. Je perds mes cheveux. J'ai la peau qui fripe, non ? Avec l'âge, notre corps, notre tente se détériore et on se dit, notre corps l'offrir à Dieu. Mais encore une fois, lorsqu'on offre notre corps, c'est tout notre être entier que nous voulons lui offrir. Et Paul disait que dans Philippiens 1:20, selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Paul a déjà parlé de la façon dont nous pouvons nous présenter au péché ou nous présenter à Dieu. Dans Romains 6, 13, on l'a vu il y a quelques semaines, il disait « Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. » Il disait aussi, verset 19, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. » Vous avez peut-être déjà vu le sketch sur les mains qui disait, c'est un sketch où les mains gantées de blanc sont les principaux acteurs. Et l'idée, c'est que ces mains qui étaient faites pour aimer, pour bâtir, pour protéger, pour aimer, sont devenues des mains qui sont utilisées pour détruire, pour frapper, pour battre, pour détruire. De la même façon, notre corps, il est neutre. Ma langue est neutre au départ. Elle peut être utilisée pour glorifier Dieu, elle peut être utilisée pour le maudire, elle peut être utilisée pour dire des mensonges, pour faire du mal. C'est pour ça que l'apôtre Jacques s'affolait et quelque part était impressionné par la puissance pour le bien ou pour le mal. Et ça, c'est valable pour tout notre corps. Nous pouvons soit servir Dieu avec notre être, ou soit lui faire beaucoup de tort, lui faire beaucoup de mal. La Bible parle essentiellement de deux sacrifices vivants dans la Bible. On en a parlé un peu jeudi soir lorsque Paul nous a parlé de l'agneau de Dieu et de l'Aïd el Kébir, c'est ça ? Où Abraham a offert son fils en sacrifice à Dieu. Et c'est vrai qu'on pense des fois que Isaac était un jeune enfant. En fait, le terme qui est utilisé montre qu'il était plutôt presque un adulte ou un jeune adulte. Et Abraham était prêt à le sacrifier. Il avait un sacrifice vivant qu'il allait sacrifier sur l'autel parce qu'il avait confiance en Dieu. Bien que ce soit la promesse qu'il avait entendue depuis plus de 25 ans, cette promesse qui ne semblait pas arriver, la promesse d'une descendance, il pensait, comme il est dit dans les livres aux Hébreux, dans la lettre aux Hébreux, que Dieu est capable de redonner la vie, parce qu'il savait que cet enfant, il devait donner la vie à toute une descendance qui amènerait le Messie. Et lorsque Dieu lui avait demandé d'offrir ce sacrifice, Abraham était prêt à offrir ce sacrifice vivant. L'autre sacrifice vivant, bien sûr, c'est Jésus, 1 Jean 2:2, qui dit qu'il était lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, nous qui sommes chrétiens, mais pour tous ceux du monde entier. Le sacrifice vivant, quelque part, c'est encourageant, c'est aussi nous appelle à mourir à nous-mêmes, mais c'est quelque chose de continuel. C'est mourir à nos ambitions, à nos égoïsmes, à nos désirs particuliers, égoïstes. Mais lorsqu'il est dit de nous présenter, on utilise souvent ce verset pour dire que chaque matin, il faut dire « Seigneur, je viens, je m'offre à toi ». Ce n'est pas mauvais, mais le sens ici, c'est de s'offrir une fois pour toutes et sur cette base, de vivre le reste de notre vie. Alors, ce n'est pas mauvais, sans doute, de se rappeler qu'on s'offre à Dieu chaque jour, mais ce n'est pas normalement lorsqu'un esclave s'offrait, il n'était pas tous les matins à dire « Bon, ben aujourd'hui, je vais voir, bon, ça va, je m'offre encore ». De la même façon, on est invité à l'esclavage à Dieu. Un esclavage qui est une bénédiction parce que Dieu nous aime, il a les meilleurs plans pour nous. Encore une fois, c'est toujours basé sur deux raisons. L'amour de Dieu, les compassions de Dieu, Romains 1 à 11, le fait que ses appels, ses dons sont irrévocables. Il a dit qu'il nous a promis de nous aimer si nous venons à lui. Ses compassions, nous disait le prophète Jérémie dans Lamentations 3:21, elles sont renouvelées chaque matin. On peut se présenter une fois pour toutes, mais chaque matin, on avait dit à l'époque, comme un plateau de croissants frais. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais des fois, si on rate les courses à Carrefour dans la semaine, le matin, on regarde dans le placard pour trouver un peu qu'est-ce qui reste. On trouve des vieux vasas. On dit vas-y, vas-y, bof. Mais la Bible nous dit que chaque matin, Dieu a préparé pour nous des croissants frais. Et il nous les offre. Ce sont ses compassions. Sa bienveillance, elle n'est jamais épuisée, nous dit le même prophète. Et une chose très importante aussi à remarquer, c'est que il n'y a pas de condition. Il ne dit pas « Je vous exhorte à vous présenter comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu une fois que vous aurez lu toute la Bible deux fois ou une fois que vous aurez tout compris, une fois que vous aurez atteint un certain niveau de spiritualité. » Ça, c'est ce que disent les religions. Les religions nous disent « Purifie-toi et viens à moi. » Jésus nous dit « Viens à moi tel que tu es. » Et ça, si ce n'est pas quelque chose de formidable, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Jésus nous dit « Présentez-vous à moi avec vos péchés, avec les tentations qui vous gênent, avec vos mauvaises attitudes. » Venez à moi parce que je suis la solution à tous vos problèmes et moi je vais vous transformer. Dieu nous dit, viens tel que tu es. Nous le chantons des fois et ça c'est fondamental. Il faut bien comprendre la différence. Et c'est un peu l'idée qui fait que certains, lorsqu'on parle de baptême, ils disent, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête. J'ai dit, attends. Où est-ce qu'il est dit qu'avant de se faire baptiser dans le Jourdain, les gens suivaient un enseignement de 2 ans en école biblique? Ils avaient simplement le désir de changer de direction. Ils répondaient à l'exhortation de Jean-Baptiste de se repentir, qui veut dire au lieu de m'éloigner de Dieu, de suivre mon péché, je fais demi-tour et je viens à lui. Et le baptême, c'est une façon d'exprimer publiquement cette réalité de votre cœur, la réalité que vous voulez maintenant aller vers Christ, aller vers Dieu, le servir, lui confier votre vie. Et encore une fois, le baptême, il ne s'agit pas d'avoir atteint certains niveaux de spiritualité, de plus être tenté par certains péchés, même de ne plus jamais succomber à certains péchés, non. Jusqu'à notre mort, jusqu'à ce que nous rencontrons Jésus de l'autre côté de cette vie, nous serons sujets à la tentation, nous succomberons au péché. Celui qui dit le contraire, l'apôtre Jean est formel, c'est un menteur. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit dire, bon, ben, puisque de toute façon on ne va pas être parfait de ce côté, allons-y et profitons-en. Nous, on a Paul dit non, la pensée, qu'une telle pensée périsse, jamais de la vie, pas question, vous êtes fou, vous êtes cinglé, c'est pas ça le message. Le message, c'est de faire confiance à Dieu, mais de savoir qu'il nous accepte tel que nous sommes. Et ça, c'est chose que vous êtes. Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il ne s'agit pas encore une fois de... Et on met la charrue avant les bœufs lorsqu'on essaye de se purifier avant de venir à Dieu. On ne peut pas se purifier. Paul vient de nous le démontrer dans les chapitres du départ de Romains. Les religieux, les non-religieux, les païens invétérés, les pécheurs invétérés, tous autant que nous sommes, nous provoquons la colère divine. Notre péché est horrible autant que nous sommes, et la seule façon de changer, c'est pas en prenant des bonnes résolutions, c'est pas en faisant des séances de psychanalyse pour extirper le passé. Non, la seule chose qui va marcher, c'est de venir à Jésus. À Jésus qui est le Créateur, qui nous aime, qui nous comprend, qui a vécu, qui a été tenté en toutes choses, mais jamais n'a succombé au péché, et qui intercède pour nous, qui est auprès du Père et qui dit « Oui, encourage Jérôme, encourage Grégory, encourage Nina, encourage Feriel, encourage Enzo. » Dieu est là qui prie pour nous. Il n'est pas contre nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Nous a dit Paul. Nous donnons notre corps, nous lui donnons aussi notre intelligence, notre intellect. Le péché a aussi obscurci notre intelligence. Ça a affecté notre intellect. S'il y a tant de décisions imbéciles que nous prenons, qui sont prises autour de nous, même par des grands responsables, il suffit de lire le rapport de la Cour des comptes chaque année pour s'apercevoir qu'on a construit une gare pharaonique dans un endroit où il n'y a pas de train qui passe. On dit, mais comment c'est possible? La Bible nous l'explique. C'est parce que nous sommes des pécheurs et que notre intelligence en a pris un sacré coup. Voici donc Éphésiens 4, 17, 24. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence, le vide de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils y voient plus clair. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. En fait, la vie morale et la vie intellectuelle, ça va ensemble. On a l'impression dans notre société qu'on peut être la pire des crapules et être intelligent et servir l'État, par exemple, ou les banques, ou être dans des postes de grande responsabilité. Si on a une vie morale déréglée, on ne peut pas avoir une vie intelligente. On ne peut pas prendre de décisions intelligentes. Nous devons donner à Dieu notre intellect. Et là, il peut transformer, il peut, le même mot qui est traduit, qu'on traduit ici par transformer, il est traduit dans l'épisode de Jésus sur la montagne par transfiguration. C'est le même mot, c'est la métamorphose. L'intérieur de son corps, sa réalité intérieure plutôt, s'est finalement montrée à travers son corps. Il y a eu une conformité entre ce qu'il était à l'intérieur et ce qu'il montrait à l'extérieur. Alors que nous, nous sommes conformés, maintenant que nous sommes chrétiens, nous devrions avoir cette même gloire de Jésus qui devrait transparaître par notre calme, par notre gentillesse, par notre amour, par notre sourire, par notre paix dans les épreuves. Cette conformité à ce qui est à l'intérieur de nous, lorsque Christ est en nous, ça devrait se voir. Alors vous avez peut-être jouer avec des grenouilles en classe de biologie. Souvent, c'est là qu'il y en a qui se disent « Oui, je vais être médecin, j'aime bien ça. » Prendre un bistouri et couper le ventre des grenouilles et voir le sang qui jaillit, ça me rend pas malade. Mais il y a une autre expérience qui est intéressante, qu'on fait rarement en laboratoire dans les collèges, parce que ça prend du temps, on pourrait le faire, mais c'est de voir la croissance. Si on prend un petit tétard, donc il y a des branchies qui vivent dans l'eau, si on lui donne la bonne dose d'iode, ce tétard va se transformer en une grenouille. Si on laisse grandir le tétard sans aucune iode, à la maturation, un tétard géant. Tadpole, pour ceux qui ne connaîtraient pas le tétard. Une autre défaut, c'est de donner trop d'iode au tétard. Et là, ça va provoquer un changement trop rapide. Les processus biologiques vont se mettre en route. On va avoir une grenouille, mais ça sera une grenouille naine, toute petite. Et quelque part, on pourrait dire que ce qui permet au tétard de grandir, pour nous, c'est la parole de Dieu qui va nous permettre de grandir. C'est la source de croissance spirituelle, la source de notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, la parole de Christ, Romains 10, 17. Ce qui est intéressant, c'est qu'en poursuivant un peu l'analogie, c'est que peut-être vous vous reconnaissez, ou peut-être que vous êtes, ou vous avez connu, des tétards géants. Malheureusement, dans nos églises, il y a pas mal de tétards géants. Qu'est-ce que c'est qu'un tétard géant en termes d'église? C'est quelqu'un qui est chrétien depuis longtemps, mais qui n'a pas progressé spirituellement, qui ne connaît toujours pas bien la parole, qui doit regarder la table des matières pour savoir où se trouvent les livres. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il est en situation de crise, ne peut pas se tourner vers le Seigneur, qui n'a pas un verset qui lui vient à l'esprit pour l'encourager, le reprendre. Ça, ce sont les tétards géants. Et puis dans les églises, peut-être que vous avez connu quelqu'un qui était une grenouille naine. Alors ça fait rire parce qu'une grenouille c'est mignon et une grenouille naine encore plus mignon, mais dans une église, une grenouille naine, c'est pas beau à voir et ça ne sert pas le Seigneur. Et je vais vous dire, moi aussi, qu'on trouve des grenouilles naines à la sortie des écoles bibliques ou des séminaires. On a souvent des étudiants qui ont acquis une grande connaissance livresque de la parole, qui ont été forcés de faire des devoirs, d'apprendre par cœur des chapitres entiers, mais ça ne correspond pas à du vécu. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas le vécu. Et je me souviens, lorsque j'étais jeune chrétien, on allait une fois par semaine témoigner avec des traités en parlant aux gens dans la rue. Et je me souviens qu'une fois j'étais tombé sur quelqu'un qui pouvait me citer des passages entiers de la Bible. Il connaissait mieux la Bible que moi. Il avait été au séminaire, mais il avait tout rejeté. Ça n'avait jamais été quelque chose de sincère dans son cœur. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir, pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence, pour pouvoir discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est lorsque nous contemplons la face de Dieu que nous prenons du temps pour méditer sa parole, pour nous mettre dans n'importe quel état où nous nous trouvons, nous mettre devant lui et lui dire « Seigneur, parle-moi, où je suis fatigué, où je suis déçu, telle chose m'a blessé. » Mais ça, c'est fondamental de pouvoir le contempler passer du temps avec lui pour être transformé aussi, parce que 2 Corinthiens 3:18 est le seul autre endroit où Paul a utilisé ce mot de métamorphose, de transformer. C'est 2 Corinthiens 3:18 qui dit que nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est en contemplant, en reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, en se mettant en sa présence, que nous aussi nous sommes transformés. Le mot de métamorphose, pour ceux qui étaient bons élèves en sciences naturelles, on le retrouve aussi dans les roches métamorphiques. Par exemple, je ne sais pas si ça est considéré, mais le diamant, qu'est-ce que c'est que le diamant, cette pierre si précieuse? C'est du charbon, c'est du carbone. Donc à la base, c'est comme du charbon, mais qui a été soumis à une grande chaleur, à une grande pression, qui a réarrangé les molécules de façon qu'elles soient beaucoup plus solides et qu'elles soient, permettent à cette pierre d'être la chose la plus dure au monde. Et dans nos vies, le Saint-Esprit va utiliser les épreuves comme ce charbon et cette chaleur et cette pression pour nous transformer à l'image de Christ. C'est pour ça que nous pouvons nous réjouir dans les épreuves, sachant qu'elles nous transforment. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être sadomaso en disant « chouette une épreuve, je me réjouis ». Non, c'est parce qu'elle a un but qui est formidable. Un but d'identification, de rendre semblable, similitude à la personne de Christ. Et en fait, il y a que deux catégories de gens. Il y a les conformistes et ceux qui transforment les autres. Les conformistes, même s'ils prennent ils essaient de lancer des modes, c'est ceux qui sont contrôlés par les valeurs du monde. Et les transformateurs, ce n'est pas ceux qui vont passer le 110 en 220, non, ce sont qui sont sous le contrôle de Dieu et qui apportent le changement voulu par Dieu. Et autour de nous, nous pouvons apporter le changement. Nous avons eu la joie de pouvoir influencer Feriel, qui, si elle s'était laissée conformer au monde, n'aurait pas une naissance à venir. Et ça, c'est un tout petit exemple et c'est la grâce de Dieu. Mais chacun de nous, nous pouvons avoir une influence et je vous garantis que cette petite influence, peut-être qu'un jour Enzo nous remerciera, ou Max. Et on ne sait jamais à quel moment on peut avoir cette petite influence. Et les gens vous diront, oh mais oui, mais vous les chrétiens, la Bible c'est le lavage de cerveau. La question n'est pas s'il y a lavage ou non de cerveau, la question c'est qui lave votre cerveau. Parce que tous autant que nous sommes comme une éponge et nous absorbons ce qui nous entoure. Soit nous allons absorber les valeurs du monde, nous allons laisser la pub nous laver le cerveau. Nous allons laisser la télé-réalité, entre guillemets, nous laver le cerveau. Nous allons laisser les médias, les modes, le monde, nous laver le cerveau. Nous allons nous laisser laver le cerveau par la parole de Dieu. Est-ce que c'est un choix difficile à prendre? Est-ce qu'une décision est difficile à prendre? Non, je ne crois pas. Encore une fois, cet esprit du monde dont on a parlé tout à l'heure dans un chant sont les valeurs du monde. Et des fois on dit oui, c'est vrai, je vais plus être dans le monde. Je vais jeter la télé, je vais plus regarder les films, je vais plus boire de café ni de thé, plus une goutte d'alcool, plus une cigarette. Mais en fait, ça va plus loin, l'esprit du monde. L'esprit du monde, si on devait le résumer avec un mot, c'est l'égoïsme. Moi d'abord, qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Si je l'aide, est-ce qu'elle va m'aider en retour? C'est l'égoïsme. Cette attitude, c'est la recherche effrénée du bonheur égoïste. Elle se poursuit même dans l'Église, où certains vont être à la recherche de l'Église qui va répondre à leurs besoins, entre guillemets, au lieu de chercher l'Église où Dieu les veut, pour changer les choses. Comment renouveler notre intelligence? Paul nous explique aussi dans Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est vrai que quand on entend ça, on se dit, vaut mieux éteindre la télé, il vaut mieux peut-être éviter certains programmes, certains films, certaines fréquentations. Nous donnons à Dieu notre volonté aussi, comme Jésus qui disait, pas ma volonté, mais ta volonté. Là, on va pouvoir discerner si on a cette attitude. La volonté de Dieu, si nous sommes prêts à la faire, cette volonté, il est prêt à nous la montrer. Si on lui dit, montre-moi ta volonté, sachant très bien qu'on ne veut pas le suivre, à ce moment-là, il ne dira rien. En résumé, il est question d'un engagement total. Ça, l'engagement, c'est une notion aussi qui a disparu dans notre société. Divorce, jusqu'à ce qu'on la quitte. Et ça envahit toute l'Église aussi. On n'est jamais satisfait, on veut toujours plus, c'est le ressort de la publicité. Mais Dieu nous appelle à un engagement total. Un engagement radical. Un total abandon à lui. Je sais que lorsque j'ai été prêt de donner ma vie au Seigneur, j'ai eu peut-être parce que c'était bien enseigné, mais j'ai eu le sentiment que si je donnais la main au Seigneur, il allait me prendre le bras. Et puis le torse. Et puis que finalement, il voulait tout de moi. Que ça se passe. Et on essayait de gagner cette matière. L'engagement total. Vous connaissez peut-être le général William Booth, c'est celui qui a fondé l'armée du salut. Et on lui demandait un jour quel était le secret de son succès. Il expliquait qu'en fait, il y a eu un jour où il a eu sur le cœur les pauvres et une vision de ce que Christ pouvait faire. Et là, il a décidé que Dieu aurait tout ce qui était William Booth. Et à partir de ce moment-là, il nous dit qu'il a donné à Dieu tout ce qu'il avait. L'adoration de son cœur, toute la puissance de sa volonté, toute l'influence de sa vie. Et il disait même, il y a beaucoup de gens plus doués que moi, mais moi je viens à toi complètement. Il y a beaucoup de gens plus intelligents, plus influents que moi, mais moi je viens complètement à toi. Et il ne s'agit pas que ce soit un engagement verbal. Il y avait ce jeune homme qui écrivait une lettre à sa fiancée en disant, ma chérie, pour être là où tu es, je traverserai les océans à la nage. J'escaladerai les plus hautes montagnes juste pour voir ton sourire. Je marcherai pieds nus sur des braises ardentes pour pouvoir te donner un simple baiser. Mon amour pour toi est si fort que je traverserai un désert brûlant rien que pour te voir. Je t'aime, mon amour, signé Roméo. Post-scriptum. S'il ne pleut pas, mardi prochain, je viendrai te voir. Dieu nous demande tout. Mais tant qu'on ne lui a pas tout donné, on ne sait pas combien on peut être béni. Et quelqu'un a dit très justement, trop souvent, on réduit les exigences de l'engagement. Et ce faisant, on réduit l'attrait de l'engagement. Les jeunes sont prêts à s'engager pour Dieu si on leur demande des sacrifices, si on leur demande un engagement total. Si l'on leur demande de jouer avec Dieu, de venir une fois le dimanche, c'est pas ce qui va les motiver. La bénédiction que nous avons dans le mouvement calvariste, c'est que si on a des gens comme David, comme Stéphanie et d'autres que vous avez connus, c'est parce qu'on dit que on peut donner une année de sa vie ou plus pour servir le Seigneur. Et que lorsque l'on est réel dans les demandes que Dieu fait sur nous, à ce moment-là, on commence à croire qu'il a vraiment quelque chose de formidable. Et à trop réduire les exigences pour donner l'impression qu'on peut... On peut être à la fois dans les deux mondes, on dilue l'évangile et on l'affaiblit complètement, on le dénature. Il y a un mouvement en ce moment qui a une tendance qui s'appelle le christianisme amical aux autres, c'est-à-dire user-friendly, c'est pour être bien perçu, on demande le moins possible aux gens, on transforme les cultes en pièces de théâtre. Alors c'est vrai qu'il y a un intérêt, ça peut présenter l'évangile, mais on veut surtout réduire les demandes pour qu'il y ait le plus grand nombre. On baisse la barre pour qu'il y en ait plus qui rentrent. Et ça, c'est aussi un faux évangile. L'évangile de Christ, c'est un évangile qui demande notre tout, qui veut faire de nous des sacrifices vivants, qui veut que nous nous offrions en sacrifice vivant. Et quelque part, je crois que ce matin, vous réalisez que si vous offrez un sacrifice vivant, alors c'est une aventure passionnante. Dieu peut vous utiliser, Dieu peut vous bénir, la vie devient passionnante. Et c'est ni plus ni moins un appel à être un soldat pour Christ. Amen.